Chapitre 39. Le soleil tangue, il me réveille. Je regarde par le hublot du Zaroug, juste au-dessus de la ligne de flottaison troublée. Un immense cargo vient d'entrer dans la rade, des milliers de pèlerins en descendent. Ondine dort pourtant à poing fermé sur le futon posé au fond de la cale, allongé sur le côté. Mes yeux se perdent sur les dunes et les vallées dorées, le puits, l'oasis, sa peau de coco et ses cheveux feuilles de palmier. Ondine n'est pas une rose semblable. Ondine n'est pas capricieuse. Ondine n'est pas orgueilleuse. Ondine n'est pas frileuse. Ondine m'a-t-elle apprivoisée? Suis-je désormais responsable de ce petit renard? Comme si elle sentait le poids de mon regard, Ondine s'étire, sans même prendre le temps de tirer le drap sur elle.
Oh, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée.
Je ne peux contenir mon admiration. Ondine file se doucher. Andy ressort, lavé, habillé, pressé, à peine le temps de prendre un petit déjeuner et m'entraîne sur les quais. Nous nous frayons un chemin parmi la foule jusqu'au phare. Andy insiste pour monter à pied, plusieurs centaines de marches. Nous parvenons à la vigie essoufflée. Hoshi nous attend devant ses cadrans, crâne rasé et lunettes au bout du nez, comme s'il n'avait pas bougé depuis que nous l'avons quitté. Andy ne lui laisse pas le temps de respirer.
Qui a saboté l'avion de Syntex? Qui a voulu le faire taire? Qui l'a assassiné?
Hoshi a l'air plus détendu qu'hier. Peut-être parce que le matin, le phare est éteint et qu'il n'a pas à compter les pèlerins.
Faire taire Saint-Exupéry. Son avion saboté.
Hoshi réfléchit.
Oh, c'est une vieille hypothèse farfelue. Je vous ai intrigué avec cette théorie hier pour être certain que vous reveniez me rendre visite.
Allez-y,
s'agace Andy.
Saint-Exupéry était un des rares intellectuels à s'opposer frontalement à De Gaulle. Fin juillet 44, la victoire des Alliés ne faisait plus aucun doute, ni l'épuration politique qui suivrait. Saint-Exupéry était influent, gênant, incontrôlable. Les gaullistes le haïssaient. Après la guerre, l'hypothèse qu'il ait pu être éliminé a été l'une des premières pistes suivies par les enquêteurs. Des amis haut placés de Saint-Exupéry, le général Odic et le commandant Martin, pensaient sérieusement que Saint-Exupéry était menacé et voulaient le mettre en garde.
Ils ne l'ont pas fait?
Saint-Exupéry devait dîner avec eux le soir du 31 juillet 44. Andy étouffe un cri. La coïncidence paraît presque irréelle.
D'ailleurs, ajoute Hoshi, ce matin-là, Saint-Exupéry n'aurait jamais dû partir en mission. Il était 13e et dernier sur la liste des pilotes français mobilisables. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi son nom, le 30 juillet au soir, est apparu en premier.
Andy se ratatine, déconcerté, prostré.
Je ne vais pas laisser ma petite détective trop imaginative dépérir pour de telles sottises.
De Gaulle commanditant l'élimination de Saint-Exupéry? C'est un peu gros, non?
Hoshi me répond avec détachement. Il est occupé à sortir d'un tiroir une pile de feuilles imprimées.
Vous avez raison. Moi non plus, je n'y crois pas. Mais il fallait que nous l'évoquions. Pour que vous remontiez me voir. Pour que je puisse vous parler d'un autre tueur. Bien réel, celui-ci.
Il étale sur la table la plus proche des feuilles imprimées. Des articles de journaux, des copies d'écran. Un yacht pulvérisé, un fauteuil roulant fracassé, une plage inondée, un château incendié. Je tremble en découvrant cette tragique actualité. Je reconnais les îles de Riou, de Manhattan, de Conchaguita, d'Orcade.
Quelqu'un cherche à éliminer les membres du club 612, explique Hoshi. Les uns après les autres.
Andy n'est plus qu'une petite fille qui se recroqueville dans sa coquille.
Je ne vais pas laisser ma petite sirène seule avec sa peine. Mon cerveau analyse à toute vitesse chaque étape de notre enquête. Une évidence s'impose alors que je rembobine le film. Je connais l'arme du crime. Je connais le modus operandi de notre tueur en série. La boîte rectangulaire. Chaque membre du Club 612 que nous avons rencontré en avait reçu une identique. Un carton avec trois trous alignés à l'horizontale, semblable à celle dessinée par l'aviateur pour le Petit Prince. Il y en avait une sur la table d'Oko, une autre entre les genoux de Moïsès, une autre encore près du trône d'Izar. Hoshi me gratifie d'un regard admiratif. « Bien vu, inspecteur. Bien vu. » Il avance vers l'armoire à l'opposé de la baie vitrée. L'ouvre. Une boîte comme celle-ci? Je compte trois boîtes sur l'étagère. Semblables, strictement semblables. Mon cœur bondit. Hoshi. Hoshi est le tueur. Instinctivement, je me place devant Andy. Le gardien du phare sort l'une des boîtes. À votre avis, qu'y a-t-il dans cette caisse de carton? Il trouve la force de plaisanter. Sûrement pas un mouton. Avec précaution, il la place sur la table. Allez-y, si vous voulez le savoir. Ouvrez-la. Il ne me parle pas. Il parle à Andy. Elle s'avance fascinée. Hoshi s'est reculé de trois pas et croise les bras. Non, Andy, ne l'écoute pas. Elle ne m'écoute pas. Elle pose les mains sur le carton. Non, Andy! Je suis responsable de ma rose. Je suis celui par qui le malheur arrive. Je me précipite. Trop tard. Andy a déjà soulevé le couvercle de la boîte. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de son cou. Elle demeura un instant immobile. Elle ne cria pas. Elle tomba doucement sur moi comme tombe une amoureuse. Ça ne fit même pas de bruit, à cause de mes bras. Andy reste ainsi de longues secondes, aussi molle qu'une poupée de blé, avant que son cœur ne ralentisse, avant que son souffle ne fléchisse. Alors Andy tourne la tête vers la caisse et éclate de rire. Un monstre de papier vient de lui sauter à la gorge. Un serpent jaune en origami. Habilement plié dans la boîte pour qu'il jaillisse tel un ressort dès qu'on soulève le couvercle. Un serpent de papier, aussi impressionnant qu'inoffensif. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Hoshi ramasse avec délicatesse le serpent jaune tombé par terre. J'ai envoyé une boîte à chaque membre du Club 612, accompagné de cette surprise de papier, pour qu'ils comprennent le message. Quel message? Le serpent n'est pas dangereux. Sa morsure n'est pas mortelle. Ce n'est qu'une mise en scène. Le Petit Prince n'est pas mort. Pas plus qu'aucun membre du Club 612. Eux aussi devaient mettre en scène leur disparition, puis suivre les instructions. Vers leur destination. Syntex nous a laissé un message clair. Le serpent, dans la plupart des religions, signifie avant tout la résurrection. J'observe le vieux japonais au crâne rasé. Je l'ai mal jugé quand je l'ai rencontré. Hoshi est le plus fou de tous les membres de ce club de timbrés. Tout était expliqué dans la boîte, dit encore Hoshi. Tout quoi? Tout ce que le géographe m'a demandé de leur expliquer. Des explications d'explications. On tourne en rond. Je hausse le ton. Qui est ce géographe? Qui est ce sixième membre de votre petite communauté? Où le trouve-t-on? Il n'y a aucun indice sur la liste d'Oko, ni adresse, ni nom. Hoshi, comme s'il ne m'avait même pas écouté, se tourne vers Andy. Ma détective paraît reprendre ses esprits. J'ai un autre cadeau pour vous. Il ouvre un tiroir de l'armoire, en sort une enveloppe noire. La suite de votre feuille de route. La dernière étape. Vous l'avez compris, depuis le début. Tout n'est que vérité codée dans Le Petit Prince. Un renard en détient la clé. Les passages principaux raturés ou oubliés, des chiffres sans explication. Et plus encore, tout n'est que mystère dans la vie de Saint-Exupéry. Sa biographie repose sur les récits de ses maîtresses, de sa femme ou de ses propres aveux. Elle compose une personnalité complexe, contradictoire. Mais n'est-ce pas encore pour brouiller les pistes? Chaque portrait de Saint-Exupéry le peint sous un jour différent. Les malles-cabines de Consuelo ont attendu 50 ans avant d'être ouvertes, partiellement. Les archives de Nelly de Vauguet ne le seront qu'en 2053. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ce brave Tonio avait tant de goût pour les énigmes. La veille de sa disparition, il exécutait encore des tours de magie pour ses amis. Il adorait les jeux de lettres et de mathématiques. « Pourquoi parles-tu toujours par énigme ?» demande le petit prince au serpent. Oshii range avec calme l'origami jaune dans sa boîte, referme le couvercle. Mais on pourrait en dire autant à Saint-Ex.
« Je les résous toutes ?»
répond simplement Andy. Oshii sourit. Il tend l'enveloppe à Andy. « À vous de le prouver !»